Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Raphaël Porcher.
Bonjour.
Et son petit invité.
Voilà, je suis désolé, j'ai avec moi le plus jeune des participants. Les aléas des transports en commun ne m'ont pas permis de le déposer à la crèche avant de venir. Et vraiment, j'en suis profondément désolé.
Donc, on va se plonger maintenant sur un sujet spécifique, les biosciences. Et Raphaël, qui vient au nom de Equator, Enhancing the Quality and Transparency of Health Research, il va nous parler sur la qualité et la transparence de la recherche en biosciences.
Donc, voilà, enfin, j'ai mis recherche médicale qui me paraît plus juste. Donc, je suis maître de conférence des universités, praticien hospitalier à l'Université Paris-Descartes et à l'Hôtel Dieu. Je fais partie d'une équipe de recherche INSERM. Et je suis aussi membre du Centre Équator France. Donc, Équator, c'est un réseau international dont l'objectif est d'améliorer la qualité et la transparence de la recherche médicale. C'est un petit peu à ce titre que je viens vous présenter ces réflexions. Je ne sais pas du tout combien d'entre vous sont familiers avec le milieu de la recherche médicale, mais finalement, contrairement à d'autres types de recherche, les choses dans notre domaine sont très codifiées quand il s'agit d'évaluer un nouveau traitement, au sens large, un médicament, une intervention en santé. Et la méthode de référence, c'est une méthode expérimentale où on va avoir des patients qui ont une certaine maladie et tirer au sort le traitement qu'ils reçoivent. Ils vont recevoir ou le traitement que l'on souhaite évaluer, qui s'appelle traitement ici, et, ou treatment en anglais, je suis désolé, j'ai mal traduit, ou un traitement de référence, un comparateur, qui peut être un placebo, c'est-à-dire un médicament factice, ou un médicament de référence, et c'est souvent préférable quand ils existent. On va suivre ces patients, on va mesurer des critères de jugement qui représentent l'évolution de la maladie et comparer ces critères de jugement à l'aide des tests statistiques. Et l'interprétation des résultats devrait être extrêmement simple. Où on va montrer que le traitement expérimental est plus efficace que son comparateur, on dit souvent que l'essai est positif, ou le comparateur est plus efficace que le traitement, ça arrivait rarement, mais ça arrive. Ou enfin, on a des résultats un petit peu mitigés, neutres, avant on disait négatifs, et on n'arrive pas à démontrer que le nouveau traitement est meilleur que le précédent. Et tout ça fait l'objet de publications scientifiques qui sont diffusées sur des canaux pas très modernes, mais de journaux très classiques, de préférence à fort impact factor. Et malgré ces choses très codifiées, on a vu apparaître un grand nombre de travaux récents, avec des titres plus ou moins provocateurs, mais qui finalement tendaient à montrer que les résultats publiés sur la recherche médicale étaient pour le moins biaisés, ou en tout cas mal rapportés, jusqu'à un article de Jan Chalmers et Postglasiou de 2009, où ils ont replacé ça dans un contexte de gâchis de la recherche médicale, et ils estimaient, on peut contester les chiffres, mais globalement, que jusqu'à 85% de la recherche médicale pouvait être gâchée par ces mauvaises pratiques de dissémination. Et puis le Lancet, donc j'ai mis en haut à droite, a lancé toute une série de travaux sur le sujet en 2014. Alors pourquoi les résultats sont mal rapportés? La première cause, c'est qu'ils ne sont finalement pas rapportés du tout, ils ne sont pas disponibles. Donc dans ce travail qui a été conduit dans l'équipe où je suis, on a regardé, ou ils ont regardé, moi je n'étais pas associé à ça, un peu plus de 200 essais dans le domaine du cancer, des essais qui étaient enregistrés pour lesquels on avait un protocole, et on connaissait, d'après l'enregistrement, la date de fin d'essai, et en regardant dans le suivi après, on se rend compte qu'au bout de 3 ans, par exemple, presque la moitié des essais ne sont pas encore publics. Je ne vais pas dire publiés, ça peut être publié dans un journal ou avec des résultats disponibles sur le site d'enregistrement, sur le site du promoteur. Donc, voilà, après 3 ans, on ne connaît toujours pas les résultats de ces recherches, et donc finalement, si on ne les connaît pas, on ne peut pas s'en servir. En plus, non seulement on ne publie pas tous les résultats, mais on ne les publie pas au hasard. Donc dans cet autre travail, on peut voir que, donc, qui concerne la publication d'essais d'antidépresseurs, alors la diapo est coupée à l'écran, mais elle est bien sur mon écran, désolé. Donc les auteurs ont comparé les travaux qui étaient publiés ou pas publiés en regardant tout ce qui avait été enregistré à la FDA, donc l'agence du médicament américaine, et en regardant aussi si les conclusions des auteurs étaient en accord avec les conclusions de l'évaluation qu'en avait fait de la FDA. Donc quand l'essai était positif, donc les 38, c'est-à-dire qu'ils montraient un bénéfice du traitement, 37 des articles sur 38, donc quasiment tous, étaient publiés, et avec un résultat en accord avec l'évaluation qu'en fait la FDA. Quand les résultats sont négatifs, 24 articles, il n'y en a que 3 finalement qui sont publiés avec des résultats en accord avec l'évaluation de la FDA, donc ils vont dire négatifs. 5 sont publiés, mais avec un message différent, plutôt favorable, et la majorité, 67%, ne le sont pas du tout. Et quand on est entre les deux, avec des résultats plus difficiles à interpréter, la moitié sont publiés, avec un résultat différent de la FDA. Si on regarde plus précisément en plus, dans les publications, donc c'est les journals à droite, l'effet estimé des médicaments est toujours supérieur à l'effet qu'a retenu la FDA dans son évaluation. Donc un biais de publication en faveur des résultats les plus favorables. Quand les résultats sont publiés, tout n'est pas publié pareillement. Donc on a vu globalement sur l'essai, les essais favorables étaient plus facilement publiés, mais au sein des essais publiés, deux travaux que je vous mets là, mais il y en a d'autres, ont montré qu'il y avait une tendance à présenter les critères de jugement qui étaient favorables et pas ceux qui étaient défavorables. Donc évidemment, une maladie, elle est rarement... Il y a des gens qui connaissent mieux que moi ça dans la salle. Je vois Jean-François Bach, mais la maladie, elle n'a pas une seule dimension, donc on peut évaluer l'effet d'un traitement sur plusieurs dimensions, et la règle est de retenir une de ces dimensions comme critère principal de l'essai. C'est là-dessus qu'on devrait fonder notre décision de jugement favorable ou défavorable au traitement. Et donc là, en regardant des protocoles dans un premier travail, les auteurs se sont rendus compte que dans 60% des cas à peu près, le critère principal qui est présenté dans l'article n'est pas celui qui était pensé initialement dans le protocole comme critère principal par les auteurs. Et donc, ils ont choisi un critère évidemment plus favorable, avec un risque à peu près 2 fois plus élevé que ce soit un critère plus favorable, pour le présenter comme étant le critère principal et sur lequel on doit fonder une discussion. Et à partir d'autres données, pas les protocoles, mais des données enregistrées sur un site dont on reparlera après, on retrouve des résultats un petit peu plus favorables, mais à peine, avec toujours une propension à rapporter de façon sélective les résultats et sélective vers le plus efficace. Enfin, quand les données sont rapportées, il y a un autre problème qui peut survenir, c'est une interprétation distordue, tordue, faussée des résultats en faveur d'une meilleure efficacité et donc ou d'une meilleure sécurité. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé. Il lui s'amuse beaucoup, visiblement. Et donc, pour un essai, par exemple, qui montre un bénéfice, mais pour lequel les données de tolérance laissent apparaître des événements indésirables graves relativement rares, et donc sur lesquels on ne peut pas conclure par rapport au comparateur, on va avoir une petite phrase qui dit « non seulement c'était efficace, mais en plus c'était sûr, il n'y a pas plus d'événements indésirables ». Alors qu'on n'a aucune puissance pour affirmer ce message. Donc ça arrive aussi assez souvent. Voilà. Donc prévenir les biais de dissémination, qui sont un petit peu tous les biais dont je viens de vous parler, c'est à notre sens un enjeu majeur. Pour prévenir les biais de publication à la sélection des résultats publiés, il y a des méthodes qui ont déjà fait un peu leurs preuves, et c'est notamment l'enregistrement préalable des études l'exigence d'avoir des résultats rendu public. Donc ça, c'était fait au départ à l'initiative d'éditeurs de revues médicales, mais après, les autorités de santé, et donc la FDA d'abord, puis l'Union européenne à partir de l'année prochaine, ont repris cela à leur compte avec des moyens de pression un peu plus importants, et donc exigent que les essais soient enregistrés sur des sites d'accès public, et que dans l'année qui suit la fin de l'essai, les résultats soient donnés sur ces sites, indépendamment ou pas d'une publication scientifique qui, elle, suit les méandres des revues, et ainsi de suite. Et pour prévenir les rapports incomplets, il y a eu un certain nombre de guides méthodologiques qui essayent de décrire quoi rapporter, comment le rapporter, ne pas changer le critère de jugement, bien expliquer ce qui a été fait, tout ça pour plus de transparence. Et c'est là-dessus notamment que le réseau Équateur, dont je vous ai mis une petite diapo, travaille. Au-delà de ça, on observe aujourd'hui une réelle dynamique vers l'open data. Donc, j'espère avoir laissé transparaître dans mes premières diapos que finalement, ce qui est important, c'est la transparence. Si on sait ce que les gens ont fait, on sait ce que les gens avaient prévu et on sait ce qu'ils ont obtenu, on peut se faire le jugement. Finalement, ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont obtenu, on s'en fiche un peu. On peut se faire notre propre jugement. Et donc, la transparence et la disponibilité des informations sur les essais cliniques, c'est le moyen important pour qu'on puisse, en tant que communauté scientifique, se faire notre jugement sur l'efficacité des médicaments. Et là, il y a des initiatives plutôt publiques, enfin publiques ou associatives, comme All Trials, qui essaye de faire en sorte que tous les essais soient enregistrés avec des résultats rapportés, ou Open Trial, qui est vraiment à son balbutiement, mais qui essaye de faire en sorte de colliger toutes les données qu'on aurait, pas les données des patients, mais les données de protocoles, de rapports, d'analyses sur les essais, de les colliger. Enfin, ce n'est pas encore du tout en place, c'est vraiment le début du projet, qui est conduit par Ben Goldacker à Oxford, que toutes ces données soient liées ensemble et disponibles pour la communauté. Enfin, il y a d'autres choses qu'on peut utiliser que les publications scientifiques pour avoir de l'information pertinente sur l'effet des médicaments. Et là, on peut saluer une initiative de l'Agence européenne du médicament, l'EMA, qui fait en sorte qu'à partir de cette année, les rapports cliniques qui lui sont soumis sont rendus publics. Et donc, on a les données que les firmes pharmaceutiques, mais pas que, ça peut être aussi des promoteurs académiques, transmettent à l'Agence du médicament européenne pour obtenir, par exemple, une autorisation de commercialisation de leurs produits. Et donc, on a beaucoup plus de données, c'est des rapports qui font des milliers de pages, qu'un simple petit article en 7 ou 8 pages, dont deux de discussion. Et enfin, il y a toute une tendance à favoriser le partage des données sources, les protocoles, mais aussi les données des patients, dûment anonymisées, et donc notamment par les laboratoires pharmaceutiques avec plein d'initiatives. Et ça, c'est important, je vais faire vite. Si on prend toutes ces... Enfin, j'ai piqué cette diapo à Paul Glasziou. Si on prend toutes les informations qu'on a sur la recherche médicale, enfin sur les essais cliniques, jusqu'à présent, pour se faire notre jugement, on utilisait des articles qui sont là, et des fois des petits résumés de conférences. Et donc c'est quand même difficile de se faire un jugement sur l'effet d'un médicament en 12 lignes. Mais voilà ce qu'on utilisait. On avait à notre disposition, bon, évidemment, des données secondaires. Et ça, c'est ce qui est en blanc, c'est ce qu'on a à notre disposition. On n'avait pas à notre disposition les commentaires des reviewers. Donc ça, ça rejoint ce que vous disiez. Et il y a de plus en plus de revues médicales et de plus en plus de groupes qui poussent que dans les revues médicales, on donne les commentaires des reviewers. L'historique du papier, ce qui a été modifié. La mauvaise qualité, si je peux m'exprimer ainsi, de publications n'est pas nécessairement due qu'aux auteurs. En tant que moi-même auteur, j'ai déjà eu des éditeurs ou des reviewers qui disent « Ah ben non, coupez la méthode, c'est trop long !» Ah ben oui, mais si je n'explique pas ce qu'on a fait, comment est-ce que ça peut être reproduit ? Mais on est faible, hein. On obéit à l'éditeur, on veut que notre article soit public. On a aussi toutes ces données-là, qui pourraient être utiles, les données de protocole à gauche, les rapports donnés aux autorités, et ça on les aura grâce à l'EMA, les données primaires. Et donc tout ce que j'ai mis en rouge, c'est ce qu'on souhaite avoir, ce qu'il faudrait avoir pour avoir une bonne transparence de la recherche médicale. Et l'utilisation de ces données, elle n'est pas anodine. Dans ce travail, je ne vais pas passer beaucoup de temps, c'est ça, il me reste combien de temps ? 2 minutes ? 1 minute. Donc, c'est juste en utilisant les données que la FDA met librement sur son site, des rapports d'évaluation par rapport aux publications, on change le résultat du classement des différents traitements possibles de la dépression sévère. Et notamment, bon, si la paroxétine apparaît toujours le meilleur, la mirtazapine, elle disparaît de la top liste des médicaments quand on utilise plus de données. Plus important encore, à l'aide des données individuelles, il y a un groupe qui s'appelle... RIAT, Restoring Invisible and Abandoned Trials, qui a obtenu des données, des rapports cliniques soumis aux autorités, mais aussi des données individuelles, et qui a réanalysé un essai qui concluait en 2001 que la paroxétine, qui est mon médicament que dans mon diapo d'avant je mets en premier, est bien tolérée et efficace pour la dépression majeure des adolescents. Et bien, en réanalysant toutes les données, en récupérant des données de sécurité qui n'avaient pas été analysées parce que considérées comme trop rares, ils arrivent à changer leur conclusion. Ils disent ni la paroxétine ni le deuxième médicament qui était testé ne sont efficaces. Mais par contre, il y avait plus d'effets secondaires. Donc quand même, avoir les données, ça peut changer vraiment les choses. Et ça, c'est important parce qu'il y a des patients qu'on va traiter ou pas. Voilà, c'est pas un problème uniquement de la recherche clinique. Ça arrive aussi dans les sciences sociales. Vous aurez mes diapos. J'ai piqué ça à des collègues en sciences sociales. Mais pour une fois, dans les sciences de la santé, on n'est pas complètement en retard. On est même plutôt en avance sur la transparence, pas autant que les physiciens, par exemple, mais néanmoins, on a fait pas mal de progrès. Je voudrais remercier tous mes collègues qui travaillent sur le sujet, dont c'est aussi le sujet. Voilà. Merci de votre attention.
Merci. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette plongée sur la vision de la donnée. On a déjà une question là.
Oui, bonjour. Un des points importants que vous avez soulevé, c'est qu'on n'a pas accès aux données de la recherche clinique. Actuellement, bien souvent, c'est développé, enfin surtout les stades 3, c'est développé, ou le développement de nouvelles molécules, c'est développé par les big pharma. Donc effectivement, elles n'ont pas tout le temps l'intérêt à publier ou donner accès à tous leurs résultats. Actuellement, il y a de plus en plus de modèles de financement de la recherche clinique et d'essais thérapeutiques qui se développent dans d'autres cadres, qui sont des partenariats publics-privés au niveau européen. Donc les big pharma qui vont développer des projets, des essais thérapeutiques dans le cadre de ce mode de financement vont se retrouver dans un modèle différent. Donc vous pensez-vous pas que ça va accélérer le fait qu'on ait plus accès aux résultats de ces essais, au moins dans ce type de financement? Parce qu'on est dans un partenariat public-privé, donc les big pharma sont tenus d'avoir un modèle de présentation de leurs résultats ou d'accès de leurs résultats différents.
Alors, j'espère, vous avez complètement raison, j'espère bien que... Mais je pense qu'il faut il faut pousser même les acteurs publics à cette transparence. C'est pas un problème que de l'industrie pharmaceutique, en fait. Vous voyez, ça, c'est les sciences sociales et c'est financé par la National Science Foundation. Je pense que, y compris dans les essais même purement académiques, le partage des données, c'est pas la règle. Beaucoup de mes collègues vont dire, mais moi c'est des années de travail, d'investissement, je préfère les garder pour en faire moi quelque chose plutôt que de les partager. Alors, je suis pas d'accord, enfin on n'est pas nécessairement d'accord avec ça, mais je suis pas sûr que ce soit que l'industrie pharmaceutique. Et par contre les financeurs ou les autorités qui ont un pouvoir plus sûr peuvent pousser au partage et ça me paraît une bonne idée. Le NIHR en Angleterre, ils ont une bonne politique de transparence et d'ouverture, pas encore de partage de données. Mais ils sont un peu en avance par rapport aux Français là-dessus. Mais oui, l'Europe, elle pourrait pousser et demander à ce que les données de tout partenariat public-privé soient disponibles. Et les industriels, ils ne sont pas complètement à la traîne. Hein. Ils ont relativement bien joué le jeu avec Clinical Study Data Request. Il y a à peu près 3500 études, si je ne me trompe. 2500 ou 3500 études disponibles. Alors, elles ne sont pas disponibles complètement ouvertes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller sur le site et télécharger les données. Mais si on fournit un protocole, il y a un groupe d'experts indépendants des firmes qui mettent leurs données, qui évaluent le protocole, et s'ils le retiennent, et c'est à peu près 50% des cas, ils donnent accès aux données. Et là, les firmes elles restent maîtres des données qu'elles mettent, et donc il n'y a pas nécessairement les derniers médicaments les plus intéressants dessus. Mais ça progresse.
Pour rebondir sur la question qu'a posée ma collègue, je pensais à la question des biais de financement également qui sont assez importants dans les résultats de la recherche entre une même étude avec un financement complètement privé et avec un financement complètement public. Les résultats, enfin, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a des biais extrêmement importants dans les résultats. Donc, est-ce que le fait de donner les données, d'après vous, est-ce qui nous protégerait complètement de ce biais-là?
Vous avez encore une fois raison. Alors, c'est pas si facile de savoir s'il y a des biais de financement dans les données, parce que c'est évalué à partir de publications. Et évidemment, il y a le filtre de j'ai une diapo d'Iceberg que j'aime bien, que j'ai piqué aussi à Peter Doshi de Rayat. Dans tout ce qui n'est pas publié, on ne sait pas. Donc je ne sais pas bien, vous voyez, comment c'est le biais de financement. Est-ce qu'il passe uniquement par le biais de publication ou s'il existe en soi? Je connais mal, je ne sais pas s'il y a beaucoup de papiers qui ont réussi à évaluer ça. Mais je suis prêt à l'accepter sans problème. Eh bien, en effet, avoir les données sources, c'est pas nécessairement la panacée. Et c'est aussi ce que dit Peter Doshi avec Rayat. Quand ils ont réanalysé les données de la paroxétine chez l'adolescent, là, ils ont pris non seulement les rapports cliniques, donc les résultats des analyses, ils ont réussi à obtenir les bases de données, mais après ils sont allés fouiller parce qu'ils ont trouvé des petites incohérences, ils sont allés fouiller et ils ont trouvé par exemple des événements secondaires très rares comme des suicides, tout ça, qui n'avaient pas été rentrés dans la base de données parce que le principe était de n'entrer que ce qui arrivait un petit peu fréquemment ou des choses comme ça, vous voyez. Mais... Et c'est comme ça qu'ils arrivent à montrer que c'est moins bien toléré. Donc vous avez aussi raison, mais je sais, enfin voilà, encore une fois, je ne suis pas complètement sûr que ce qu'on fait dans, en tant que, qu'institutionnel ou promoteur public est tellement plus propre.
Merci. Une toute petite dernière question là. Oh, le micro arrive.
Quid de la grande base de données de la sécurité sociale ? Parce que ça, ça appartient en principe, c'est public, et il y a une quantité incroyable d'informations. On aurait découvert pas mal de problèmes à temps si ça avait été mis un petit peu plus ouvert.
Oui. Alors, oui. En termes de sécurité et de surveillance. Après la mise sur le marché, incontestablement, ces grandes bases de données, elles vont, avec toutes leurs imprécisions, elles vont permettre de trouver des signaux de sécurité, ça c'est sûr. Elles ne peuvent pas servir à évaluer un médicament au départ. C'est plutôt ça. Nous, là, on est très en amont. Mais en effet, sur ce qu'il y a à faire après, il faut utiliser les données. Mais à la limite, on pourrait se dire aussi que tous les entrepôts de données qui sont en train de se construire dans les hôpitaux, je sais que l'Assistance publique hôpitaux de Paris construit des entrepôts de données, j'imagine qu'il y a plein d'autres hôpitaux en France qui le font, et dans le monde, c'est parfois déjà fait. Tout ça, ce sont des données collectées en routine. Je ne sais pas si elles sont moins bonnes ou meilleures que les données des essais cliniques. En tout cas, comme elles ne sont pas faites pour le même but, si elles devaient être falsifiées, elles ne le seraient pas pour la même chose, donc c'est très bien. Et elles sont sûrement très très utiles pour surveiller l'efficacité des médicaments en pratique courante, qui n'est pas celle des essais. Les populations des essais, ce n'est pas les gens qu'on traitera. Voilà, on sait bien que les personnes âgées sont souvent, ou qu'ont d'autres pathologies, sont exclues des essais, alors qu'elles sont les premiers récipiendaires des médicaments. Et voilà. Peut-être qu'il y a aussi des ponts à faire entre les essais, donc tirer au sort un médicament, et le recueil de données qui lui-même pourrait être fait dans un flux de données existant. Ça sécuriserait beaucoup les choses. Peut-être qu'on est dans un paradigme qui va complètement changer, on peut l'espérer. Et en termes de transparence et d'ouverture des données, ça va être important. Alors, les bases du CNIRAM, elles sont un petit peu plus utilisables qu'avant. Un grand nombre de collègues qui les utilisent. Elles ne sont pas si faciles à utiliser quand même. Mais vous avez raison, encore une fois, c'est des sources de données inestimables qui sont actuellement gâchées.
Merci. Un dernier fort applaudissement pour Raphaël et son petite assistante.